RTL L'Équipe, le Café des Sports, Emmanuel Barre.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur RTL L'Équipe. J'accueille aujourd'hui un ancien président du Paris Saint-Germain, mais surtout, un amoureux fou du club de la capitale, Alain Kayzak, est l'invité du Café des Sports, un livre lui consacré, Le Mister de Paris, entretien avec Damien Genès et Errico Rizzitelli. Au programme, le quintet bien sûr, comme tous les jours à 13h50, et les débats du café à 14h et priorité au tennis. Pour débuter, Marion Bartoli affronte aujourd'hui la tenante du titre, l'italienne Francesca Schiavone, en demi-finale de Roland. Match à suivre évidemment sur Arte L'Équipe. Nos spécialistes nous diront si la Française a une chance de décrocher son ticket pour la finale. Au programme également, le football et le match de qualification pour l'Euro 2012, prévu demain, Biélorussie-France. Coup d'envoi 20h50, pronostic et enjeu à venir en deuxième partie d'émission. Enfin, nous parlerons basket et de la fin de carrière du mythique pivot NBA Shaquille O'Neal. Un départ à la retraite après 19 années passées au plus haut niveau. C'est le Café des Sports, nous sommes ensemble jusqu'à 14h30.
RTL L'Équipe, le Café des Sports.
Alain Kayzak, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir à nouveau accepté l'invitation. C'est la deuxième fois que
vous allez
faire un petit coucou dans ce Café des Sports. Première fois, c'était pour le plaisir de vous recevoir. C'est toujours un plaisir de vous accueillir. Et cette fois-ci, évidemment, c'est pour parler de ce livre, Le Mister de Paris. Livre entretien, je le disais, avec Damien Genès et Errico Rizzitelli. Évidemment, l'actualité, c'est le Paris Saint-Germain. On va parler du livre d'ici quelques secondes. Mais je suis obligé de vous poser cette question. Parce que vous le dites dans le bouquin, tiens, on sent véritablement, bon, il y a eu le président, mais avant tout, il y a évidemment le supporter du Paris Saint-Germain, encore et toujours. Comment vous avez vécu cette tout récente actualité avec le rachat du club ?
Oui, j'ai tout fait au Paris Saint-Germain. J'étais supporter, dirigeant, président d'association, président, ex-président, médiateur. Enfin bon, donc c'est pour ça d'ailleurs qu'on a fait un livre, puisque je suis un témoin qui a traversé l'histoire du club.
Tous les étages.
Voilà, tous les étages. Et c'est d'ailleurs mon troisième rachat, puisque la première fois, c'était quand l'association est devenue société commerciale, donc quand Canal Plus est arrivé. La deuxième fois, quand Canal Plus a cédé à Colony Capital. Et aujourd'hui, quand Colony cède au Qatari. Donc, pour moi, c'est une excellente nouvelle, tout simplement.
C'est vrai.
Bon, on en parlait depuis longtemps. Enfin, tant que ça n'est pas signé, on ne sait jamais si ça peut capoter pour une raison ou pour une autre. Mais c'est une formidable nouvelle pour le club qui a déjà bien avancé en 5 ans, même dans la douleur peut-être, mais bien avancé, qui là va probablement prendre un nouveau départ, j'espère, vers les sommets.
Mais un nouveau départ, même si, et ça on le ressent vraiment dans le bouquin, le PSG, la marque, le PSG reste évidemment importante. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, le club de la capitale a vraiment les moyens de retrouver une dimension européenne, puisque c'est ce qu'attendent véritablement les supporters.
Oui, enfin, d'abord, je ne connais pas personnellement les Qataris qui viennent, donc je sais par Sébastien Bazin qui sont des gens qui ont des moyens bien sûr, mais sérieux, compétents et efficaces, donc on a tout lieu de penser qu'ils ne viennent pas simplement pour faire de la figuration. Hein.
Pourquoi une telle discrétion justement sur ces investisseurs ?
Je crois que, pourquoi non ? Parce que je crois qu'il est prévu qu'ils se présentent eux-mêmes dans 3 semaines, donc vous savez, c'est toujours un rachat, il y a beaucoup de... Je suis bien placé pour le savoir et l'avoir vécu quand Colony a racheté, il y a une période d'annonce, et puis après il y a des signatures, il y a des choses à mettre au point sur le plan juridique qui font que, bon, on peut pas...
Ça prend du temps.
Ça prend toujours du temps. Voilà, donc ce sont des encore une fois des gens tout à fait recommandables et ça se fera peut-être en 2 étapes, c'est-à-dire qu'il y aura une première étape où on va espérer avoir une équipe pour décrocher la Ligue des Champions. On n'a pas été vraiment très très loin cette année, puisqu'on termine 4e, ce qui est plutôt bien, plutôt même très bien, et puis après j'en sais rien, après on peut espérer mieux, c'est bien sûr être qualifié, ça je l'ai déjà dit, c'est le premier objectif, puis ensuite aller assez loin dans la Ligue des Champions et pas se faire éliminer dans les poules et aller si possible faire au moins aussi bien que Lyon, puis peut-être mieux un jour.
Vous avez vécu, parce que là on parle du terrain, parlons des dirigeants, vous avez vécu cette situation, il y a une crainte un petit peu quand on se fait racheter, quand on occupe des postes à responsabilité, on ne sait pas trop de quoi peut-être est fait l'avenir également, il y a une crainte aujourd'hui, vous le pensez, du côté du Paris Saint-Germain concernant les dirigeants du club hein.
Écoutez, j'espère que non, parce que je crois que il faut toujours que les individus ne prennent pas le pas sur le collectif et sur l'entreprise. Donc voilà, ce qui compte, c'est que ce soit bien pour le Paris Saint-Germain. Après, qui doit mener ce nouveau projet, c'est un autre problème, mais on ne doit jamais avoir peur, on doit simplement considérer que c'est une bonne nouvelle. Alors, si maintenant on parle des dirigeants, je crois et j'espère que les personnes qui viennent vont garder l'équipe dirigeante en place, parce qu'elle a fait du bon boulot, parce que entre l'année dernière et cette année, il y a eu un gros progrès, parce qu'on est quatrième, parce que le couple, le proue qu'on boirait, le proue, a l'air de bien s'entendre, enfin, plus qu'à l'air, d'ailleurs, s'entend bien et fonctionne bien, donc je pense, sans être du tout dans les secrets, mais je crois quand même savoir que ça a été discuté, je crois, j'espère que voilà, qu'il n'y aura pas trop d'instabilité, qui a quand même souvent été le problème de ce club.
Oui, dernière question avant de basculer définitivement sur le livre. Parlons du terrain. À présent, ça veut dire quoi? Si on se met un petit peu dans la peau des supporters, on peut espérer l'arrivée vraiment de joueurs importants, de joueurs de classe internationale, ou par exemple, bon, je cite un nom, Ronaldo, enfin toutes ces grandes stars au Paris Saint-Germain. C'est désormais possible ou il ne faut pas s'emballer?
Oh, écoutez, il faut pas s'emballer. Déjà, j'ai pas les informations, donc les informations, c'est de savoir combien vont investir. Vous savez, le rachat d'un club, c'est pas vraiment, le chiffre n'est pas très important. On peut parfois racheter des clubs pour pas cher. Ce qui compte, c'est l'argent que l'on met après pour le faire fonctionner. Donc, je sais pas du tout quels sont leurs objectifs. Ce que déjà, je crois qu'il faut pas aller trop vite. Ce qu'il faut déjà espérer, c'est que cette année, on ait la capacité, ça je pense qu'on l'aura, de recruter les 3 ou 4 joueurs qui manquent pour que d'abord le banc soit un peu plus large, comme l'on dit, et pour que il y a des joueurs qui s'en vont, des Grégory Coupé, des Makelele, et pas n'importe qui, pour recruter les 4 ou 5 joueurs de très bon niveau. Qui pourront nous faire espérer d'être vraiment là cette fois sur le podium.
Ouais, vous l'avez dit, je reprends vos mots, on peut racheter un club de football pour pas très cher finalement.
Oui.
Pas très cher, bon, entre guillemets, ce fut votre cas d'ailleurs, hein, une certaine période, vous avez hésité à reprendre, pour je crois, alors si jamais je me trompe, n'hésitez pas à me corriger, aux alentours des 20 millions d'euros, c'est bien ça?
19.
19, voilà, c'est ça.
On était deux avec Francis Graille et on n'avait pas les moyens de, même 19 millions, c'est déjà une grosse somme, mais on aurait repris une partie du club et fait un tour de table et on avait des possibilités, je dirais, d'amener nous gardons probablement la majorité, ou en tout cas un nombre important de parts, tous les deux, on aurait fait venir d'autres investisseurs. Ceci étant dit, c'est quand même très bien qu'on ne l'ait pas fait. C'est très bien pour nous, parce que je pense qu'on serait peut-être ruinés, parce que encore une fois, l'achat c'est une chose, mais après faut remettre de l'argent. Et puis c'est très bien pour le club. On l'avait fait d'ailleurs, c'était pas simplement parce qu'on est des flambeurs, hein. Bon, je pense d'ailleurs que nous ne sommes pas des flambeurs. On l'avait fait parce que, rappelez-vous, que quand Canal a décidé de quitter le club a déclaré que ça n'était pas un actif stratégique, il s'est passé quand même 2-3 ans où le club était orphelin, où il n'y avait pas vraiment d'acheteurs crédibles, et donc on était très inquiets. Donc on s'est dit, on va essayer nous-mêmes de prendre les choses en main et de faire un tour de table, mais c'était pas idéal, et la solution Colonie était bien sûr bien meilleure.
De toute façon, ça n'aurait pas pu se faire, Alain Cézac, puisque votre femme n'était pas d'accord à l'époque.
Ah oui, mais elle n'a pas la signature.
C'est vrai, elle n'a pas la signature. On est bien d'accord. On sent vraiment... Racontez-nous d'abord l'histoire de ce livre. Pourquoi ce livre? On rappelle, un livre entretien avec Damien Genès et Rico Rizzitelli, deux journalistes de ce foot.
Oui. Bah, ce livre... D'abord, l'idée de ce livre vient de Damien et de Rico, qui m'ont contacté pour le faire, et on a démarré ce livre il y a peu de temps. J'en ai pas fait 50 livres. C'est mon troisième livre, c'est la première fois où ça va aussi vite. Leur idée était d'avoir le témoignage de quelqu'un qui effectivement a vécu l'histoire du Paris Saint-Germain pratiquement depuis le début, et surtout qui a occupé toutes les fonctions, hein, de simple supporter à dirigeant, président, et voilà. Donc c'était leur idée. Après, pour rentrer un petit peu plus dans le contenu du livre, l'idée, alors vous allez voir que c'est extrêmement ambitieux, c'est peut-être même une mission impossible, c'est d'expliquer le Paris Saint-Germain. C'est-à-dire, beaucoup de livres ont raconté le Paris Saint-Germain chronologiquement avec tout ce qui s'est passé. Là, on essaie, ils essaient par leurs questions, parfois difficiles, de faire en sorte que le lecteur comprenne un un peu mieux ce club, qui est extrêmement difficile à comprendre, qui est un club tout à fait paradoxal, avec beaucoup de contradictions, avec des bons moments, des mauvais moments, beaucoup de passion en tout cas, et beaucoup de turbulences.
Eh bien, ce que je vais vous dire, c'est que c'est plutôt bien réussi, parce qu'on a vraiment le sentiment, moi quand j'ai lu le bouquin, ça a été un vrai plaisir, parce qu'on a vraiment le sentiment d'être invité au bal. On est vraiment là, on voit ce qui se passe, et on arrive vraiment à avoir, c'est vrai, cette vision globale, qui parfois est difficile à saisir, hein, comme ça, du fonctionnement du Paris Saint-Germain.
Oui, j'ai pas censuré du tout. J'ai répondu aux questions. Le seul, la partie dont je ne suis pas responsable, bien que c'est, ils ont souhaité faire un glossaire à la fin du livre où ils ont repris le nom de chaque personne qui était citée dans le livre pour mettre une petite définition. Je dirais, esprit sauf foot.
Voilà.
C'est parfois, bon, c'est pas parfois un peu acide.
Carrément décalé. Ça,
parfois
c'est...
décalé, délirant, acide, mais bon, ça, ils ont bien mis. D'ailleurs, ce glossaire s'est fait sans l'assentiment d'Alain Kézakescu.
Et avec des témoignages également des gens qui vous ont accompagné, oui, bien sûr, tout au long de ce livre. Et ça, c'est aussi intéressant parce que ça met en relief, oui, un parcours véritablement. Et c'est ça, finalement. Moi, je lis le livre, je me dis, c'est vrai, c'est un supporter du PSG. Il aime le football, d'accord, mais avant tout, c'est un aventurier, Alain Kézak. Et il aime être entouré, avoir des gens autour de lui et se lancer dans des aventures. On le vit d'abord dans la publicité, bien sûr, mais finalement, le football n'est que le prolongement d'une aventure humaine, d'un autre genre, bien sûr, mais l'aventure humaine avant tout.
Oui, c'est vrai. C'est pour cela que dans ce livre, il y a beaucoup de football, mais il n'y a pas que ça.
Oui.
Ils ont souhaité aussi m'interroger sur ma vie, sur mes options politiques, sur mes 68, sur ma carrière de publicitaire. Partant de l'idée, comme vous le dites, qu'un club de foot, c'est une aventure humaine. Heureusement, il y a du football, il y a le jeu, mais il y a aussi, il y a la politique qui est autour, il y a le showbiz, il y a la communication, il y a la publicité, il y a beaucoup de choses qui font que de par mon parcours, je pense pouvoir avoir un regard un peu différent.
Jacques Séguéla qui dit par exemple dans le livre, on se demande ce qu'Alain Kézak fait dans ce sport. Il parle de football évidemment, qui met en berne toutes les valeurs du monde. Comment se fait-il qu'un être aussi moral ait pu s'enticher d'un sport aussi amoral?
J'adore Jacques Séguéla, il dit beaucoup de bêtises, donc c'en est une de plus. Mais je lui ai envoyé...
C'est plutôt un compliment vous concernant.
Oui, mais le foot n'est pas immoral. Je lui ai envoyé une dédicace en lui disant, quand tu seras grand, tu comprendras que le foot n'est pas du tout immoral. Donc pas plus, je lui dis pas plus que la politique ou que la publicité. Donc c'est vrai que bon, lui c'est pas son sport, mais il a un témoignage toujours intéressant et c'est vrai que c'est une idée originale de mes deux tortionnaires, je dirais, d'interviewer des gens qui ont eu et qui le font sans complaisance. C'est-à-dire, on a souhaité que ce soit pas simplement des gens qui disent Kézak, il est formidable. La plupart ou ne parlent pas tellement de moi, d'ailleurs, ce qui était un peu l'objectif, ou peuvent même en dire du mal. J'ai souhaité, moi, que Vicage de Rasso, que j'avais, pourtant, dont je m'étais séparé, puisse avoir le droit à la parole, ce qu'il a eu. Bon, il y a Jérôme Rotaine qui dit beaucoup de bien de moi, parce qu'on s'entend très bien.
Il est plutôt classe, même Vicage de Rasso, il a pas l'air
en cunion. Non, il est pas en cunion. On s'est revus, on s'est apprécié. J'ai pas accepté ces déclarations. Lui pense que j'aurais pas dû gérer le problème comme ça. C'est tout à fait son droit. Donc, mais c'est bien que les gens parlent. Voilà.
On revit évidemment donc cette fabuleuse aventure du Paris Saint-Germain avec évidemment l'ère Borelli, puis le rachat de Canal+, de Colony. On sent vraiment que au rachat de Canal+, bon, c'est un tournant du club. Qu'entre guillemets, la fête est finie. C'est un peu ça.
Oui, mais là je crois que c'est pas spécifique au Paris Saint-Germain, donc c'est le passage du statut associatif, oui, au statut de, alors il y a eu différents noms, SASP, SAOS, enfin bon, disons société commerciale qui maintenant est une société à part entière qui peut même aller en bourse. Donc c'est avant tout une évolution du football, et au Paris Saint-Germain ça a été encore plus marqué vu la personnalité des fondateurs du club et de Francis Borelli qui est vraiment l'ADN du Paris Saint-Germain.
Oui.
Sa passion, c'est le PSG, c'est lui qui l'a transmise à la marque PSG. Donc le passage de de Borrelli qui était lui vraiment symbolique de passion, de parfois de désordre même, de sympathie, de convivialité, de très très bonne connaissance du football, à un passage au foot business, c'est vrai que c'était assez spectaculaire.
D'accord, c'était un changement de mentalité.
Oui, changement de mentalité, mais là, le bon côté, c'est qu'on est, on s'est marié avec Canal, qu'on avait été chercher avec Bernard Brochand, et que on est quand même resté dans le milieu des médias, de la com, et je veux dire, on connaissait tout le monde déjà de par notre métier, donc la transition a été plus simple, parce que les Deniso, les Lescure et autres, on les connaissait bien. Donc.
Parce que finalement, l'histoire du Paris Saint-Germain, c'est quoi? C'est l'histoire un petit peu d'un club de médias mélangé au showbiz, et puis mélangé également peut-être au marketing, à la publicité. C'est un peu ça, non, quand même? Les fondations, oui, du Paris Saint-Germain, c'est un petit peu ça.
Je crois que c'est pour ça que je m'y trouvais. Que maintenant, mon rôle n'est plus du tout majeur. C'est effectivement un club, voilà, qui c'est un peu un mix de, oui, de foot, de politique, de marketing, de com.
Un club à plusieurs visages.
À plusieurs visages, et vous savez, et ils disent quelque chose dans le livre. Je suis Gémeaux, moi. D'ailleurs. C'est mon anniversaire aujourd'hui, donc je vais surtout pas en parler parce que
je suis très heureux de vous souhaiter un très bon anniversaire.
C'est un âge où je préférais que ce soit pas mon anniversaire. Mais bon, peu importe.
On tient quand même à vous souhaiter tout particulièrement.
Merci.
Je le faisais un bon anniversaire.
Je le faisais pas pour ça, mais c'est aujourd'hui,
ça
le 2 juin.
Ça me fait plaisir de le faire.
Voilà. Et donc je suis un Gémeaux et je crois pas tellement au signe, mais j'y crois quand il s'agit de moi. Donc, et j'ai beaucoup de copains qui sont Gémeaux, des Brochants et autres, et les Gémeaux sont des gens qui parfois ont un double visage, dont on dit qu'ils sont sensibles et durs, qu'ils sont un peu paradoxaux et tout. Et mes auteurs, mes co-auteurs considèrent que le club est aussi un club un peu Gémeaux, c'est-à-dire c'est un club à multifacette, le Paris Saint-Germain. Moi, j'ai souvent dit que c'était un club totalement paradoxal, très turbulent, passionné. Quand tout va bien, ben il y a un truc qui va pas bien. Quand ça va pas vraiment bien, ben finalement on réussit toujours à se relever. Ben, c'est un club incroyable, aimé ou est totalement détesté, critiqué parfois d'ailleurs pour de très mauvaises raisons, pas très connu. On dit que c'est un club arrogant alors que c'est le club le plus familial qui soit. Et les joueurs qui arrivent sont très surpris par le bon. Ceci étant, c'est pas facile parce que c'est Paris, c'est la médiatisation. Il y a des fuites, il y a des, oui, bon, il y a toujours des bruits de couloir. Ça, c'est. Mais bon, moi, je trouve ça bien. On peut pas avoir tout et son contraire. On est Paris quand même.
Sur RTL l'équipe, le café des sports jusqu'à 14h30.
Et vous inquiétez pas, on va vous donner véritablement, bien sûr, le quintet définitif d'ici quelques minutes. Le Mister de Paris, Alain Kézac, entretient avec Damien Genès et Errico Rizzitelli. Ces visages un peu différents, Paris Saint-Germain, je trouve que ça vous correspond bien, cette double personnalité également, parce que c'est ce qui vous caractérise, Alain Kézac.
C'est ce qu'on dit, oui.
Une éducation classique, mais on se sent également chez vous, et on le sent vraiment dans le bouquin, parfois ce côté un peu fantasque, ce brin de folie quand même, qui est présent.
C'est très dur de se juger, mais c'est ce que me disent mes amis ou ma famille. C'est vrai que j'aime bien prendre des risques, que je suis pas aussi raisonnable que mon éducation, mes études peuvent le laisser penser. Bon, j'essaie de pas faire trop de bêtises, mais voyez, par exemple, le rachat du Paris Saint-Germain. Si on avait réussi à se mettre d'accord avec Canal, j'aurais plongé. Ça aurait été une immense connerie. Mais bon, à un moment, j'essaie toujours d'avoir une attitude positive. C'est-à-dire, oui, quand on me dit il faut pas le faire, ça m'inciterait plutôt à le faire en général.
D'accord. Et cette attitude vous a plutôt bien réussi quand on prend du recul un petit peu. Si des jeunes vous écoutent aujourd'hui, on sait que parfois c'est compliqué de réussir. Vous avez réussi, que ce soit dans le milieu de la publicité, dans le football d'une certaine façon, puisqu'on l'a dit, vous avez évolué à tous les étages au sein du Paris Saint-Germain. C'est quoi? C'est du culot? C'est du tempérament? Faut être courageux? Faut y aller?
Faut y aller. Faut écouter sa petite musique intérieure. Faut écouter les conseils, mais pas trop. J'ai écrit un livre, je suis pas là pour faire la promo de tous mes livres, mais qui s'appelle Tout ce qu'on ne m'a pas appris à l'école, où j'énumère mes 38 convictions. Alors ça peut être considéré comme des conseils, mais en tout cas, c'est ce à quoi je crois. Et le dernier chapitre, c'est presque ma conviction la plus profonde, c'est de dire quand on te conseille de ralentir, fonce. C'est-à-dire on est entouré de gens qui en général vous donnent les raisons de ne pas faire, qui vous conseillent de ne pas faire. Mmh. Ah non, c'est pas pour toi, tu devrais pas faire ça, tu devrais pas être prendre Paris Saint-Germain, c'est trop dangereux, ça se termine toujours mal, tu devrais pas être dans la pub parce que c'est un métier qui est un peu trop fantaisiste pour toi ou pas. Voilà, tu devrais pas t'associer à ces gars-là parce que vous êtes pas pareil. Enfin, moi, tout le temps, j'ai eu des gens qui m'ont dit non, ça faut mieux pas faire. Et en général, ça me motivait plutôt à faire. Donc c'est un vrai conseil que je donne aux jeunes, c'est non pas de faire n'importe quoi, mais quand on a le choix des armes, parce que j'allais dire qu'il faut bien bouffer aussi. Hein.
Bien sûr.
J'ai eu la chance, moi, de commencer ma vie professionnelle à une époque où il n'y avait pas de chômage. Il y avait 60 000 chômeurs quand je suis sorti de l'école d'HEC. Donc c'est vrai qu'on était gâtés hein, par rapport à ça. On a plus de facilité pour faire ce que l'on a envie de faire. Mais quand même, je crois qu'écouter ça, ce que j'ai appelé sa petite musique intérieure, être soi-même, foncer quand on vous conseille parfois de ralentir, voir plutôt les raisons de faire que les obstacles ou les dangers. Je crois que ça doit être une philosophie de la vie. En tout cas, moi, c'est ce que je conseille aux gens qui me demandent des conseils.
Votre formation, elle revient souvent d'ailleurs dans le bouquin HEC. On sent que c'est cette formation qui vous propulse également. Il y a le tempérament, bien sûr, mais on sent que ça a été un moment clé également dans votre parcours. Je me trompe peut-être.
Oui, c'était un moment clé d'abord parce que là aussi, moi j'avais fait des études qui étaient plutôt littéraires. J'étais pas un matheux et on m'a dit, mais HEC, tu rentreras jamais puisque t'es nul en maths. Ce qui était vrai, j'étais pas bon. Pas nul, mais pas bon. Et j'ai réussi quand même, en bossant, à rattraper mon retard et à rentrer. Donc, ça a été mon premier challenge réussi. Et c'était important pour moi. Et puis après, voilà, à chaque moment de mon existence, il y a eu effectivement j'ai eu des défis à relever qui sont de monter son agence de pub, en tout cas de rejoindre Roux & Séguéla qu'il avait monté il y a quelques mois avant. Donc, tout ça, c'est pas évident de démarrer une boîte avec les difficultés devant des mastodontes qui étaient Havas et Publicis. Enfin bon,
oui.
Tout ça, je suis pas meilleur que d'autres, hein, mais j'allais dire que je me dégonfle pas.
Ouais, et c'est ça on le sent bien parce qu'au début on a le sentiment que vous démarrez et c'est un peu David contre Goliath et puis finalement les choses s'équilibrent un petit peu au fur et à mesure.
Oui,
c'est
oui,
ça qui est passionnant, aller conquérir.
On a démarré 20 et on termine 14 000 quoi.
Ouais,
donc
ouais.
Bon, et puis j'ai jamais fait les choses seul en général. Si président, quand on est président d'un club de foot, on est vraiment seul.
Surtout face aux critiques, j'imagine.
Oui, voilà. Mais dans la pub, on était quatre associés, très différents, mais s'entendant vraiment très bien. Enfin, bon, je suis plutôt un joueur d'équipe, quoi.
Ouais, c'est ça le succès, savoir s'associer. On va juste faire une courte pause. On va retrouver Claude Piersanti cette fois-ci, je pense, avec le quintet définitif, Claude.
Oui, quintet définitif. Je vous rappelle, il y avait un en partant là sur ce bleu, victoire de l'outsider, le 2 Babylone. Il y avait 22 contre 1 devant le 6 Rangers. Le 13, Tarpon, le numéro 9, Sumatra Tiger, et le favori, le numéro 11, se contente de la 5e place, donc 2, 6, 13, 9 et 11. Je rappelle le numéro plus, le 316.
Merci beaucoup Claude, passez une belle après-midi et à très vite sur RTL L'Équipe.
À vous aussi, merci.
Merci.
Débattez vous aussi avec les journalistes de RTL L'Équipe via le mur Facebook RTL L'Équipe ou par mail à contact@rtl-l'équipe.fr.
Alain Cayzac, le mystère de Paris, ouverture des débats, allez, dans moins de 3 minutes. J'ai juste envie de poser une dernière question concernant le monde de la publicité, parce que ce monde a évolué et aujourd'hui on est vraiment, je crois qu'on peut le dire, dans la dictature du buzz, et on a eu l'occasion de le constater il y a encore quelques semaines ici dans cette émission lorsque j'ai reçu Jean Alési. Alain Cayzac, finalement on découvre que l'affaire de la Rolex avec Séguéla, c'est une affaire montée de toutes pièces.
Oui, enfin c'est pas montée vraiment de toutes pièces, mais c'est en tout cas bien récupéré. Il a fait Jacques Séguéla, il part toujours très vite, il est très spontané, et donc il a dit très imprudemment, écoutez, vous reprochez au président de la République d'avoir une Rolex, enfin bon, quand on n'a pas de Rolex à 50 ans, c'est qu'on n'a pas réussi. Bon, il a dit sans trop réfléchir, et puis après il a vu qu'il y avait un vrai buzz, que c'était très critiqué et critiquable, parce que si la réussite n'était que ça, ça serait un peu triste.
Alors que lui n'avait même pas de Rolex.
Mais alors il s'est dit, mais comment je vais me récupérer? C'est là où il est très très fort. Il a acheté une Rolex, il l'a mis aux enchères, il a ensuite déclaré qu'il avait dit une connerie. Il a une grande force aussi de d'auto-flagellation. Voilà, de reconnaître, il reconnaît ses erreurs. Évidemment, je dis vraiment beaucoup de conneries. Et là, j'ai une grosse connerie. Donc, ça le rend sympathique. Donc, ça devient une provocation qui devient intéressante. Et cette expression est pratiquement tombée dans le langage commun maintenant.
C'est vrai.
Voilà. Donc il est très fort.
Et avant la dictature du buzz, à ses côtés toujours, et vous également, vous aviez déjà compris ce phénomène de starification, également qui allait intervenir quelques années. Là, vous avez été un peu précurseur sur le coup également.
Oui, vous savez, dans la publicité, comme ailleurs, quand on est petit et qu'on démarre et qu'on a des géants en face de soi, bon, d'abord, il faut bosser, il faut avoir des compétences, mais il faut être gonflé. Faut provoquer un peu. Alors provoquer, ça veut pas dire provoquer bêtement. Si vous faites une campagne de pub en montrant une fille à poil ou un mec à poil, c'est de la provocation idiote, parce que si ça n'a aucun lien avec le produit, vous allez être vu, mais la marque ne va pas en bénéficier. Par contre, essayez toujours de faire des choses que les autres n'auraient pas fait. Faire la campagne de François Mitterrand, faire la campagne des produits libres de Carrefour, mettre Pompidou en scène dans un bateau pour vendre des moteurs Mercury sans son accord. Bon, c'est pas très bien, mais tout ça, ça nous a fait connaître. Et c'était aussi des succès publicitaires. C'était pas simplement pour faire les malins.
Et pour revenir au football et avant d'ouvrir les débats avec nos journalistes, j'ai envie de reprendre quelques lignes de ce livre. D'ailleurs, je reprends vos propos pour revenir au football et au Paris Saint-Germain. Quand je ne suis plus président, je reste supporter Deniso. On parle bien sûr de Deniso. Lui passe à autre chose. C'est ce qui nous différencie. C'est toujours l'amour du Paris Saint-Germain et ce côté supporter, quoi qu'il arrive, Alain Kézac.
Oui, bien sûr. Non, je suis l'homme d'un seul, pas d'un seul club. Je suis président d'honneur de deux autres clubs de football. Mais j'avais prévu de mon club d'origine qui est Évreux. Ouais. Je suis né à Évreux, donc mon père était président du club pendant 20 ans. Et là, Mathieu Bonnemère et Bernard Mendy, qui sont présidents de ce club. C'est un club quand même de CFA2 qui existe, donc qui est de bon niveau. Ils m'ont demandé d'être président d'honneur, il était hors de question que je refuse, mais président d'honneur, c'est comme son nom l'indique, c'est... Moi j'essaie d'aider, mais c'est pas opérationnel.
C'est davantage un titre honorifique.
Oui, un titre honorifique, mais enfin j'y vais au match, je m'intéresse, et c'est Évreux, c'est là où je suis né, et là où mon père était président. Et puis je suis président d'honneur et ça me tient à cœur, du Paris Foot Gay aussi.
D'accord.
J'ai pris un petit peu la relève de VKH de Rassau, parce que voilà, j'ai tellement souffert quand j'étais président de... toute forme de ce que le racisme et toute forme de discrimination pouvaient avoir, faire comme dégâts et pouvaient même conduire jusqu'à la mort d'un supporter, ce qui a été le cas pendant ma présidence, que je trouve aussi, j'ai envie d'aider, de m'associer à cette lutte.
Alain Kézac, entretien avec Damien Genès et Rico Rizzitilli, on le rappelle, un de journalistes de SoFoot, le Mister de Paris. N'hésitez pas, bien sûr, à vous procurer ce livre. Vous passerez forcément un bon moment et je vous l'ai dit, invité au bal, parce qu'on découvre vraiment toutes les facettes du club de la capitale et ça, c'est véritablement intéressant. 14h, passé de 6 minutes, on fait une courte respiration. On va accueillir nos journalistes de la rédaction de RTL Équipe. Je sais que vous aimez tout particulièrement le tennis, Alain Kézac.
J'ai beaucoup joué.
Ouais, c'est vrai. On va à un niveau international, en junior d'ailleurs. Hein.
International junior, oui.
Ouais. On va parler tennis avec le match qui nous intéresse aujourd'hui, celui qui oppose évidemment Marion Bartoli à l'italienne tenante du titre Francesca Schiavone. On va rejoindre notre envoyé spécial sur place, bien sûr, d'ici quelques minutes. 14h passées de 6 minutes, on va parler football, bien sûr, avec demain Biélorussie-France. Et puis basket, un coup de chapeau, bien sûr, à Shaquille O'Neal qui tire sa révérence après 19 années passées au plus haut niveau.
Le Café des Sports, le rendez-vous débat de la rédaction de RTL L'Équipe. I just wanna make you
sweat. Allez, la deuxième partie de ce Café des Sports. 14h passées de 7 minutes.
Vous êtes la meilleure.
Ah, oh, c'était ô combien intéressant de suivre Alain Kézac. La meilleure, parce qu'on accueille évidemment notre superstar qui revient de Madrid, c'est Jean-Louis Tour.
Bonjour à tous.
Ça va Jean-Louis ?
Très bien.
Avec nous également Salim Mangali. Bonjour Salim.
Salut messieurs.
Pour la rédaction.
Bonjour. Question Alain Kézac.
Ah évidemment.
Vous êtes peut-être
supporter du Paris Saint-Germain, Jean-Louis Tour, je tiens à le préciser.
Donc c'est quelqu'un de bien.
Voilà. Est-ce que vous savez que j'ai pensé à vous lors de la dernière journée du championnat ? parce qu'il y avait le retour, quand vous regardez le multiplex à la télévision, de cette petite musique.
Horrible.
Oui, horrible à l'époque pour vous, parce que vous étiez plus président à ce moment-là.
Non, mais j'étais. Non, j'étais plus président, oui.
Mais parce qu'il y avait l'arrivée de Michel Moulin, etc. Mais vous étiez forcément un des premiers supporters. Et c'est terrible quand vous suivez ce multiplex. Vous attendez, ou vous n'attendez surtout pas la petite musique, le tatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat
2-3 secondes. Et là, c'est 2-3 secondes de l'attente.
C'est terrible pour le maintien. Là, pour la dernière journée, cette saison.
Ah, mais c'était dur aussi. Un but à Monaco. Toc, c'est Lyon qui marque. But à Saint-Etienne, crac, Saint-Etienne qui marque, parce que les deux ont marqué à une minute près.
Voilà. Au niveau émotionnel, c'est assez...
Ah, c'est très 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 dur. Il y a ça qui est très dur, et il y a la radio. Quand on écoute la transmission de match, c'est passionnant, mais à un moment, on parle, et puis ça hurle.
Quand vous écoutez, évidemment, Christian Olivier et Pascal Praud, le samedi soir sur RTL.
Alors, c'est terrible à vivre, mais c'est passionnant à faire. Moi, je sais que je fais la radio pour ça, pour le multiplex, parce que quand vous avez été supporter, vous savez ce que c'est d'être de l'autre côté du poste, attendre le but, etc. Et quand vous savez, quand vous criez but, bah il y a des gens de l'autre côté de la radio.
Mais c'est passionnant, attendez, c'est la meilleure façon de suivre une journée. Hein.
La plus belle des façons, évidemment, de suivre le football le samedi soir, c'est sur RTL, de 20h à 23h, avec de 18h45 à 23h, évidemment, avec Christian Olivier et Pascal Praud. On va accueillir également Clément Grèze. Un beau soleil aujourd'hui, 23 degrés. On a les informations en direct depuis la porte d'Auteuil. Avec toujours une phase d'échauffement, hein, Clément. Je pense que les matchs vont débuter d'ici quelques minutes.
Effectivement, les deux demi-finales du tableau féminin qui vont débuter d'ici quelques instants avec la première rencontre qui va opposer Nali ou Lina, c'est selon, à Maria Sharapova. Mais c'est évidemment la deuxième demi-finale qu'on va attendre tout particulièrement avec la présence de Marion Bartoli qui sera opposée à la tenante du titre, l'italienne Francesca Schiavone, un petit peu rescapée dans ce tableau du tournoi féminin, mais qui sera forcément une très très belle opposition pour une Marion Bartoli que l'on attend en finale comme Marie-Pierre Saon il y a 11 ans et vainqueur victorieuse la française, la franco-américaine sur les terrains ocre de la porte d'Auteuil.
Allez, la question elle est simple pour ouvrir les débats. Clément, on va vous retrouver d'ici quelques minutes. La française a-t-elle une chance de décrocher son billet pour la finale de Roland-Garros?
Je pense qu'elle a une chance.
Oui, elle a une chance. Elle est en demi-finale. Est-ce qu'elle va le faire? Ça, c'est une belle question. Une autre question plutôt. Jean-Louis Tour, alors.
Oh, bah écoutez, on va laisser la parole à Clément.
Clément Grèze. Alors, est-ce que franchement, Marion Bartoli, est-ce que déjà c'est pour elle la demi-finale plus facile, ou alors aurait-elle dû plutôt affronter la chinoise ou la russe actuellement sur le court?
Alors honnêtement, c'est pas forcément une demi-finale facile, évidemment, puisque Francesca Schiavone a l'habitude de ce genre de rencontre, a d'autant plus l'habitude qu'elle s'est imposée l'année dernière sur ce terrain. Donc elle sait gérer une demi-finale en Grand Chelem et notamment à Roland-Garros. Après, voilà, c'est ce qu'on a eu l'occasion de dire tout à l'heure dans Carrément Tennis, de 11h30 à 12h30. C'est que Francesca Schiavone, très honnêtement, depuis le début de ce tournoi et même depuis le début de la saison, elle nous impressionne pas du tout. Le tour précédent contre Anastasia Plavyuchenkova, elle le passe alors qu'elle est menée 6-1-4-1 et qu'elle joue n'importe comment, elle boise un coup sur trois. Elle doit être éliminée si Pavlyuchenkova n'est pas à un moment rattrapée par la pression d'atteindre pour la première fois de sa carrière une demi-finale en Grand Chelem. Mais après, eh bien Francesca Schiavone, en resserrant un petit beau jeu mais sans jamais véritablement impressionner, réussit à s'imposer pour écarter Pavlyuchenkova et se hisser en ces demi-finales. Mais franchement, depuis le début de cette saison sur terre battue, avant le début du tournoi, elle était médiocre, très honnêtement, sur terre. Et depuis le début du tournoi, elle est moyenne, on va dire moyen plus, voilà, B plus. Je ne sais pas si ça existe encore comme type de notation, mais non, c'est franchement
de la moyenne, quoi.
Une demi-finale jouable pour Marion Bartoli, qui a démontré depuis le début de cette quinzaine porte d'Auteuil qu'elle a beaucoup progressé dans son jeu sur terre battue, mais surtout dans sa capacité à aborder l'événement. Elle joue avec le public, elle est très concentrée, elle continue de jouer son jeu même dans les moments importants. Non, ça peut être une bonne chance pour Marion Bartoli.
Salim Mangali est juste derrière notre invité Alain Kezak.
Alors forcément, je dirais, en tant que tenant du titre, votre objectif est très simple, c'est réaliser un doublé, en tout cas gagner deux fois de suite.
Là, vous parlez d'italienne, bien sûr.
De Francesca Schiavone. Sauf que sur ces dernières années, quand on compare peut-être aux dernières gagnantes de Roland-Garros, Francesca Schiavone, c'est peut-être celle qui est la moins meilleure, entre guillemets, qui en tout cas semble moins dominer
moins
son
solide.
Jeu que, qu'une Justine Hénin il y a quelques années, ou Kim Clijsters peut-être. Schiavone semble être plus prenable, c'est pour ça aussi peut-être qu'on
y a un coup à faire.
Bartoli a un coup à faire.
Alain Kezak.
Oui, il y a un coup à faire. Ce que je ressens surtout, c'est qu'elle a un jeu de rêve pour moi, Francesca Schiavone. C'est que Vous savez, moi je suis de la génération où on faisait des revers à une main, où on montait plus à la volée.
Le jeu à deux mains de Marion Bartoli, ça ne doit pas vous plaire alors.
Mais bon, elle est française, donc je suis pour elle. Mais non, c'est pas. Je ne prends pas un plaisir fou. Alors que voir jouer Francesca Schiavone, c'est un délice. Donc j'étais là à la finale l'année dernière. Donc je ne dis pas que je souhaite qu'elle batte la française, bien sûr. Mais en tout cas, c'est une très 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 belle joueuse.
Et puis il y a cette personnalité également pour Marion Bartoli, qui est vraiment Jean-Louis Tour à part sur le circuit.
Ah, complètement. Mais au-delà de cette personnalité, on a quand même l'impression que dans ce tennis féminin, dans ce dernier carré, les joueuses sont un peu là par défaut. Je sais pas ce qu'en pense Clément, mais...
Je me souviens, Jean-Louis Tour, il y a quelques jours, vous étiez toujours dans ce café des sports à nous dire « Oh, c'est terrible, tennis féminin,
mais on rêve pas, c'est un peu miraculeux, là, ça sort un peu de nulle part, Clément. »
Moi, j'adore quand vous parlez de tennis.
Jean-Louis Tour.
J'adore, je délecte d'écouter les commentaires tennistiques de Jean-Louis Tour, surtout sur le tennis féminin.
Non, mais c'est vrai qu'il y a quelques jours, Jean-Louis nous a dit c'est terrible, le tennis féminin, elles sont nulles, elles sont mauvaises.
Mais posons la question à Eric. Eric, vous en pensez quoi? C'est une grande cuvée, là, le tennis féminin à Roland-Garros cette année?
Non, très honnêtement, non. Mais le problème, c'est toujours pareil. Non, mais il faut comparer ce qui est comparable. C'est-à-dire que.
C'est pas pire que le tableau masculin.
On a connu une très grande époque avec Isaac en parlait.
Les hommes, c'est les quatre meilleurs qui sont là.
Voilà. Exactement, on en parlait il y a quelques temps avec Alain Cazac l'a dit, les grandes époques des Steffi Graf et compagnie, où vraiment l'âge d'or du tennis féminin. Là, on est dans une période clairement un peu creuse avec les deux sœurs Williams qui ne jouent plus, avec Justine Hénin qui a pris sa retraite, avec Kim Clijsters qui joue un tournoi sur deux parce qu'elle est maman et qu'elle ne se prépare plus comme avant, avec d'autres joueuses comme Amélie Mauresmo qui ont pris leur retraite. Donc c'est vrai qu'on est dans une période.
Il manque Kournikova.
Non, mais Kournikova, elle a quand même fait. Moi, je ne suis pas de ceux qui la critiquent vraiment parce qu'elle a quand même fait plus de 5 ans dans le top 20 et. Une poupée Barbie toute seule qui ne sait pas jouer au tennis ne passe pas 5 ans dans le top 20. Après, elle n'a pas gagné de grand titre, ça c'est autre chose. Mais c'est clair que dans le tennis féminin, on est un peu dans une période creuse où il n'y a pas de patronne, où la numéro 1 mondiale n'a pas gagné un grand chelem et Roland Garros cette année a été carrément ridicule, Caroline Wozniacki. Donc c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Mais vous avez une Sharapova qui a été une grande championne.
Tiens, ça aussi, je me permets de vous couper, Eric. Oui. Ça, c'est un débat. Numéro 1 mondiale. Elle a jamais remporté un grand tournoi. Elle se fait sortir.
Je refuse ce débat.
Mais elle a jamais rien gagné, Wozniacki.
Mais je refuse ce débat que je trouve absolument ridicule.
Vous pouvez le refuser, mais c'est la réalité. Vous pouvez refuser, mais c'est la réalité,
bon,
Clément.
Alors, je vais essayer d'en placer une. Le classement mondial récompense la joueuse la plus régulière. Il n'y a pas un nombre de point
mais
qui est marqué exclusivement.
Mais vous avez bien compris ce que veut dire Manu, question d'image.
Mais bien sûr, est-ce qu'elle va marquer le tennis, Wozniacki?
Mais est-ce qu'elle mérite d'être numéro 1 mondial? C'est la seule question à laquelle il faut répondre. Et la réponse est oui, puisqu'elle est la plus régulière tout au long de la saison.
Difficile de dire, Clément, que c'est pas une numéro 1 au rabais quand on voit qu'elle a pas gagné un grand chelem.
Mais que les autres, que les autres se préparent tout au long de la saison pour gagner un tournoi dans l'année et qu'elle soit ravie, effectivement, de remporter un tournoi du grand chelem, ça c'est un fait. Mais qu'une joueuse soit présente tout au long de la saison, effectivement, qu'elle n'aille pas remporter les tournois du Grand Chelem, mais qu'elle soit présente sur les tournois, sur les Masters 1000, qui s'appelle pas Masters 1000 sur le tableau féminin,
Clément Grèze,
qu'il soit présent jusqu'en quart de finale du tournoi du Grand Chelem, elle est la plus régulière, numéro 1 mondial.
Prenons l'exemple,
par exemple,
on peut comparer avec le cyclisme, où il y a un calendrier tout au long de la saison et certains coureurs qui visent uniquement les grands tours. Joachim Rodriguez, inconnu numéro 1 mondial l'an passé, vous ne direz jamais qu'il est meilleur coureur qu'un Alberto Contador, par exemple.
Mais est-ce qu'il mérite d'être numéro 1 mondial? Oui,
Alain Cézac. Ce débat autour de la numéro 1 mondiale, Wozniacki.
De toute façon, il y a une justice, c'est que on retient ceux qui ont gagné ou celles qui ont gagné des grands chelems plus que ceux ou celles qui ont été numéro 1 un jour.
On est bien d'accord.
Dans tous les sports, c'est un petit peu pareil. Donc, c'est deux choses qui n'ont rien à voir. Moi, je suis pas du tout passionné par cette joueuse parce que je trouve que vraiment avoir joué, elle est triste comme la mort.
C'est un stéréotype.
Si au moins elle avait du charisme, je lui pardonnerais d'être...
Elle a failli poser pour Playboy.
Elle n'en a pas. Non, justement, elle a refusé.
Mais ça, c'est le charisme, ça.
Non, pas du tout.
C'est un homme de publicité, hein, Kézak. L'image est importante.
Mais Wozniacki ne dégage rien. C'est-à-dire que non seulement son jeu est stéréotypé, mais en plus, elle n'a pas de bonnes petites phrases en conférence de presse. Elle n'a pas une attitude sur le court comme une Francesca Schiavone l'année dernière. Schiavone, vous ne pouvez pas me dire que c'est une gravure de mode, loin de là. Et pourtant, elle dégage...
Elle
dégage dégage quelque chose.
Elle est comme Borrelli, elle embrasse la terre battue.
Elle dégage quelque chose de génial dans son jeu d'abord et puis dans son expression. L'année dernière, quand elle a gagné Roland-Garros, c'était d'une émotion, mais d'une intensité extraordinaire. Voilà, Wozniacki, elle ne dégage pas ça. Et juste pour finir par rapport au tennis féminin et masculin, je disais que le tennis féminin donc traversait une période un peu creuse de disette en termes de championne au charisme et au palmarès important. En revanche, dans le tennis masculin, forcément, les gens ne s'en rendent pas forcément compte aujourd'hui, mais on vit depuis 5, 6, 7 ans et ça continue.
C'est monstrueux.
Sans doute une des périodes les plus fastes, si ce n'est la plus faste de l'histoire du tennis. On a quand même en ce moment Roger Federer qui est le recordman de titres en Grand Chelem. On a Rafael Nadal qui a peut-être empêché Federer de marquer définitivement l'histoire et qui pourrait peut-être même un jour, s'il continue, lui chipper cette place avec cette rivalité géniale, un peu comme au temps de Sampras et Agassi. Par-dessus ça, maintenant, on a un troisième larron, Novak Djokovic, qui va peut-être battre le record de McEnroe de matchs consécutifs gagnés sur une année.
Non, mais Clément, vous allez être provocateur.
On a un niveau moyen dans le tennis masculin. Alors certes, peut-être que sur 4 ou 5 joueurs et pas sur les autres, parce qu'ils archi-dominent, mais on vit une période extraordinaire.
Bon, voilà. Alors, on va terminer là-dessus. On va passer au football.
Une petite intervention pour faire le lien justement avec le football. Voilà, pour faire le lien avec le football, le tennis masculin aujourd'hui, c'est un petit peu comme le championnat d'Angleterre en football. C'est-à-dire qu'il y a 4 équipes. En Angleterre, il y a 4 joueurs.
En Espagne, il n'y en a que 2. Alors, vaut mieux être en Angleterre qu'en Espagne.
Bon, allez, on a compris, on ne va pas vous mettre d'accord là-dessus.
Et le tennis féminin, c'est un peu la Ligue 1. Voilà, tout le monde peut gagner.
Alain Cézac.
Mais c'est d'un niveau un peu moins bon.
Alors, je vous rassure, j'ai déjeuné.
La tête d'Alain Cézac, mais il n'a pas l'air d'accord avec vous.
J'ai déjeuné avec Clément, il n'a rien pris de spécial.
Manu, j'ai déjeuné avec Clément Grèze en terrasse au soleil. Je vous assure qu'il n'a bu que de l'eau, mais à mon avis, le soleil a tapé un peu sur le ciboulot.
Allez, on parle football si vous le voulez bien.
Nali a fait le break d'entrée, mon cher. Emmanuel Barr,
ça 2-0. C'est intéressant.
Attention, Anali, chinoise, première finale en Grand Chelem à l'Open d'Australie, première chinoise en finale.
Je suis pas sûr qu'ils aient encore envie de parler. Sera...
Ah, attendez-moi, ça, je vais vous dire.
Elle voilà. sera pas loin de la victoire finale.
Ce serait ça la belle histoire de ce Roland Garros.
Non.
Une première une chinoise qui gagne pour la première fois un Grand Chelem. La belle histoire, c'est Sharapova.
Pourquoi ?
Parce qu'elle a été numéro 1 mondiale, parce que c'est une vraie championne, parce qu'elle a gagné les 3 autres tournois du Grand Chelem sauf Roland Garros, et qu'elle revient après plus de 2 ans et demi de problèmes à l'épaule.
Et parce que Sharapova c'est autrement plus vendeur ou vendeuse que
le Non, c'est pas vrai. Alors
voilà,
vous pouvez pas
merci,
dire ça
Jean-Louis,
parce que
merci.
Sharapova, ça fait 2 ans qu'elle galère à c'est cause vrai. De son épaule et qu'elle fait tout sauf des couvertures de magazines et qu'elle bosse et qu'elle n'arrive
Bravo
plus
Maria.
À avoir des résultats. Et ce
oui,
qu'elle fait
attendez,
là,
c'est... ça c'est le job, hein, c'est la moindre des choses. Oh là là, hein, c'est quand même la moindre
non,
des choses.
Parce Allez. Que Sharapova aurait très bien pu faire une Kournikova, dire bah ok, j'ai gagné 3 grands chelems, j'ai été numéro 1 mondial,
foot.
J'ai mal à l'épaule,
Eric,
et ben je vais faire autre chose.
Voilà, rangez vos raquettes, on parle football à présent avec le match demain de l'équipe de France.
Faites attention,
Biélorussie, France, on rappelle le score au match aller 1-0 qu'on envoie demain. 20h50.
Ah
ouais. Oui, en plus,
je vais vous baisser l'ambiance.
Nous dérange un petit peu. Demandez-lui de se taire un petit peu, merci. 20h50, coup d'envoi demain de Biélorussie-France. Évidemment, Alain Cézac, vous avez regardé le match. Vous êtes attaché également à l'équipe de France, tout particulièrement, peut-être
oui,
moins qu'au Paris Saint-Germain. Mais
Oui, mais enfin, si, je suis attaché, bien sûr. Oui, non, je suis supporter. De...
Comment vous avez vécu toutes ces histoires, la fédération, les quotas, les affaires? C'est pas un peu saoulant à la fin?
Non,
on se repose la question à chaque fois.
C'est pas saoulant parce que les affaires permettent de poser les bonnes questions. Donc l'affaire des quotas, on n'a pas le temps de parler du fond. Mais je trouve bien que grâce à ça, on ait mis ce dossier sur la table et que les gens aient donné leur avis et que finalement, on se soit rendu compte qu'il fallait faire attention, que parfois les ce qui n'était pas le cas d'ailleurs dans cette réunion, mais que parfois les plaisanteries un peu graveleuses, homophobes ou racistes, qui font rire en général que les auteurs de ces plaisanteries aient un cercle restreint d'amis, qu'il fallait beaucoup faire gaffe à ça. Ouais. Donc que j'aime bien dans les affaires.
Vous n'avez jamais fait ce genre de blague comme ça en off, dans les petites réunions Ça peut arriver de temps en temps, non ?
Ça peut arriver, mais j'essaie de ne pas le faire et il y a des mots où j'arrive pas à sortir. Quoi.
D'accord.
Donc, probablement que j'ai aussi parfois fauté, mais j'essaie de ne pas le faire.
La méthode d'enregistrer comme ça une réunion, ça vous a choqué, non ?
Ah ben complètement, oui.
Ah oui, ça.
J'arrive même pas à comprendre ça.
D'accord.
Donc pourtant, il paraît que c'est un type très bien, mais je n'arrive pas du tout à comprendre. Et après aussi à comprendre.
C'était pour dénoncer quelque chose. C'était
oui, mais enfin, quand on dénonce ouvertement, on se lève et on dit je quitte la réunion parce que ce que vous dites, et puis on prend après. On a des journalistes à la sortie, puis on leur explique. Ah oui, mais
pas
bon,
sûr
c'est
que
ça.
Ça aurait suffi.
Après, si dès qu'on fait une réunion interne dans une entreprise, il y a quelqu'un qui a un micro qui. Pas possible. Ouais. Enfin bon,
c'est vrai,
encore une fois, il paraît que c'est un type très bien, donc Et après, on ne sait plus très bien comment, où est passée cette cassette, ouais. Qui l'a gardée. Mais bon, c'est des débats, comme Domenech, c'était intéressant, c'est une période intéressante.
Ça d'ailleurs, j'ai lu dans le bouquin que vous avez adoré, vous, la demande en mariage.
J'ai adoré.
Vous êtes peut-être là, c'est l'homme d'image là, qui parle, c'est l'homme de publicité.
Oui, j'ai adoré parce que, d'abord, honnêtement, j'ai adoré parce que tout le monde détestait, donc déjà... Ça...
ok, par principe, le contre-pied.
Donc, déjà le contre-pied. Non, j'ai adoré, bon, c'est un bien grand mot, mais j'ai compris. Alors, il y a deux choses qui m'ont intéressé. D'abord, est-ce que c'est un cri de détresse ou pas ? C'est-à-dire quelqu'un qui est lâché par tout le monde et qui, à un moment, quitte à choquer la terre entière, se raccroche à la seule personne dont il sait qu'elle l'aime. Et donc, c'est...
Ça vous
je suis un peu romantique, mais c'est une belle. C'est une hypothèse.
Oui, c'est une hypothèse.
Mais c'est romantique. La deuxième chose, c'est que moi, j'aime bien les gens qui laissent une trace. Et ça restera quelque chose de totalement décalé, quoi. De se servir d'un micro pour demander demander devant la France entière en mariage sa compagne. Honnêtement, comme coup de communication, je sais pas si ça a été fait pour ça, je trouve ça vraiment intéressant. C'est vrai que c'est pas le footballeur ou c'est plutôt le publicitaire qui parle.
Donc il y a eu cette demande, il y a eu les termes en conférence de presse quand il parle de guillotine, ça c'est le genre de choses que vous pouvez presque apprécier, quoi.
Oui, j'aimais bien ça aussi. Oui, l'odeur du sang. Non, il y a si vous voulez ce que je n'appréciais pas, c'était beaucoup plus le fait que chaque question pour lui devenait une agression. Donc ça, c'est le fait de partir en guerre à tout moment contre les médias
et donc l'opinion publique. Il est devenu un peu parano à un moment donné.
Oui, probablement. Ouais. Et ça me rendait très mal à l'aise. Par contre, il avait des formules qui étaient vraiment intéressantes. Ouais. Hein, il prouve que il pourrait faire de la pub, Raymond Domenech.
Un homme intelligent. Le coup d'envoi demain 20h50, on revient au football. Les enjeux, bien sûr. Salim Mangali, les enjeux, bien sûr, de ce match. On rappelle qu'en cas de victoire, déjà, on rappelle le match, le score au match aller, c'était 1-0 en faveur de la Biélorussie. Donc là, il faut gagner le match. Mais même en cas de victoire, le ticket qualificatif pour l'Euro 2012 n'est pas encore acquis définitivement. Il faut rester prudent.
Non, voilà, il sera pas encore acquis, mais on sera évidemment bien parti dans ce groupe, puisqu'on décrocherait et la Biélorussie, notamment dans ce groupe. Mais il y avait effectivement eu ce match aller, cette victoire 1-0 pour cette équipe du Bélarus. On se rappelle, au match aller, il y a donc cette période d'un Laurent Blanc qui essaie de mettre son équipe en place après ce France-Norvège où il y avait déjà eu une défaite face à la Norvège avec sa nouvelle équipe qu'il avait tenté de mettre en place. Un match au Stade de France très délicat, très peu d'opportunités, une défaite en fin de match, donc 1-0 face à ces Biélorusses. Et petit à petit, après, l'équipe de France s'est de nouveau reformée. Mais là, pour cette rencontre, il y a des cadres qui ne seront pas là. On pense notamment à Philippe Mexès en défense centrale. Hier, d'ailleurs, on a pu en parler dans Carrément Foot, entre 16-30 et 18. Comment va-t-il faire ? Est-ce qu'il va titulariser Mamadou Sakho, notamment, en défense centrale ? Ça pourrait être effectivement l'une des grandes pistes, évidemment. D'ailleurs, petite question, Alain Kézac, Mamadou Sakho, de loin, c'est peut-être l'un des tout meilleurs défenseurs que le PSG peut avoir dans son histoire.
Indiscutablement, il y a eu des grands défenseurs au PSG, ne serait-ce que des Ricardo, des Roches et autres. Mais je pense que Sakho est un phénomène. Et je le connais depuis l'âge de 13 ans. Je me suis parfois trompé, comme beaucoup, sur les joueurs. Mais déjà à 13 ans, on savait que ce serait un très bon joueur. On n'est jamais sûr de rien, mais en plus une vraie, vraie forte personnalité.
C'est ça, il dégage quelque chose.
Un type bien, un type qui essaie sans arrêt de progresser, qui respecte les grands anciens, qui va vers eux pour avoir des tuyaux, les Thuram, les Makelele. C'est un très très grand, et demain j'aime bien Mexès, mais si c'est Sakho qui joue et pas Mexès, c'est pas un vrai problème.
Et puis sachez, hier j'étais à Clairefontaine, il y avait Mamadou Sakho et Kevin Gamero en conférence.
J'ai
suggéré l'idée à Mamadou Sakho de faire recruter un peu Kevin Gamero.
D'accord.
PSG.
Il a recruté, là.
Vous êtes agent de joueur, mais non, Jean-Louis.
Je suis plus supporter.
Mais il l'a fait, c'est bien, il l'a fait.
Voilà.
Bon, l'équipe, on a déjà une idée un petit peu sur la composition de l'équipe, Jean-Louis Tour.
Il y a quelques interrogations. Donc Sakho, Rami en défense centrale, c'est acquis. Sur le côté droit, Sagna, Loris dans les buts. Interrogation au poste d'arrière gauche quand même entre Abidal et Evra, parce qu'Abidal l'a également dit hier en conférence de presse, physiquement il n'est pas encore revenu, il l'a perdu en muscle et il a peur de voler un petit peu sur les premiers contacts. Au milieu de terrain, Alou Diarra avec soit Yann Mvila, soit Johan Cabaï. Et pour le reste, on retrouvera Nasri en meneur de jeu, Ribéry à droite, Malouda à gauche et Benzema devant.
D'accord. Salim Mangali,
C'est du classique avec juste Yuan Kaba. Effectivement, c'est la surprise, on va dire, au milieu de terrain, à la place éventuellement d'un Dayan Mvila. Yuan Kaba, c'est peut-être la récompense, on va dire, lilloise. Lille qui a été champion de France, donc on essaye permettre à un Lillois donc d'être en sélection. Quoi.
Sauf qu'il a été bon. Enfin, il a été champion de France, mais il a pas été forcément très bon dans ce collectif.
Alors que Yuan Kaba, cette saison. Au milieu de terrain, on a peut-être plus vu un Rio Mavuba, par exemple, qui était plus intéressant à ce poste.
C'est également les retrouvailles avec Laurent Blanc, bien sûr, et les joueurs. Enfin, les retrouvailles. A déjà été fait, mais après cette fameuse affaire de quota, on va pas aborder la question, on l'a déjà fait plus largement, ça c'est une certitude. On rappelle tout de même le calendrier, bien sûr, avec là le match le plus important du mois de juin, on est d'accord, hein, puisque c'est le match qualificatif pour l'Euro 2012, et puis les matchs amicaux juste derrière face à l'Ukraine le lundi 6 juin, à Donetsk, et enfin bien sûr face à la Pologne, à Varsovie, magnifique pays, la Pologne face à la Pologne, donc le jeudi 9 juin pour être tout à fait précis, coup d'envoi à 21h, voilà.
J'ai juste une petite question pour Alain Kézac concernant Yuan Kaba, alors que vous ne connaissez pas forcément, mais Kaba qui a décidé de partir à Newcastle. Lui, le milieu de terrain qui est champion de France, qui aurait pu jouer à la Ligue des Champions, et préfère partir à Newcastle pour officiellement le championnat d'Angleterre et officieusement le salaire. Vous, en tant qu'ancien président, quand vous voyez ça, un joueur qui préfère partir et ne pas jouer à la Ligue des Champions, ça vous choque ou pas, Alain Kézac?
Oui. C'est-à-dire que ça me choque, je ne comprends pas très bien. C'est-à-dire dans une logique de carrière. Quand on est à Lille, qu'on est qualifié pour la Ligue des Champions, partir à Newcastle, qui a comme caractéristique d'avoir des supporters extraordinaires, fervents. Bon, ça c'est déjà bien. Mais enfin, c'est pas la plus belle ville d'Angleterre, donc c'est pas Saint-Tropez. Ils sont pas qualifiés en Coupe d'Europe. C'est pas non plus, ils font pas partie des top 5 ou 4 des championnats anglais. Donc, je trouve ça personnellement assez incompréhensible, sauf effectivement les supporters, mais bon, il y en a des bons à Lille aussi, et l'argent. Probablement, vous savez, les Anglais payent toujours bien, c'est un petit peu moins favorable qu'avant, parce que les impôts sont redevenus assez proches des nôtres, mais avant, quand on gagnait 100 bruts en France, on gagnait 200 net, ou 250, ouais, ou 300 en Angleterre, donc c'est probablement ça, parce que je vois pas une vraie logique. On m'aurait dit Liverpool ou Arsenal, j'aurais mieux compris.
Alors, en tout cas, d'ici quelques semaines. Et oui, c'est l'anniversaire d'Alain Kézac. On vous souhaite une nouvelle fois. Je sais pas, il a pas le casque ici, il n'entend pas, mais la petite chanson, le joyeux anniversaire, puisque aujourd'hui vous êtes Gémeaux. C'est vrai, on l'a précisé en début d'émission. C'est la fin de ce Café des Sports. Je rappelle le titre, évidemment, du livre, Le Mister de Paris, Alain Kézac, livre entretien avec Damien Genès et Rico Rizzitelli, bien sûr, deux journalistes de SoFoot. Je remercie Salim Mangali, je remercie Jean-Louis Tour, Clément Grèze, Eric Silvestro à retrouver d'ici quelques minutes pour le tennis en grand format, et je remercie tout particulièrement notre invité. Sachez que c'est la chinoise Li qui mène dans ce premier set 3 jeux à 1. Le tennis à venir d'ici quelques minutes. Merci beaucoup Alain Kézac.
Merci, c'est très agréable.
Une nouvelle fois dans cette émission. À demain pour un nouveau Café des Sports. Restez connectés sur RTL Équipe.
Le Café des Sports, c'est également à écouter en podcast sur rtl.fr.